Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau point de mire qui va nous permettre d'aller à la rencontre des lauréats du 22e prix Turgot du meilleur livre d'économie financière, dont Christine Lagarde, ministre de l'économie et des finances et de l'emploi, vient de proclamer le palmarès. Il s'agit d'une part des lauréats du Grand Prix Turgot de cette 22e édition, Olivier Pastret et Jean-Marc Sylvestre pour le roman vrai de la crise financière paru chez Perrin, et de Lorclin, heureux hasard à quelques heures ou à quelques journées de la journée de la femme, qui vient d'obtenir pour sa part d'une part une mention d'honneur donc au Grand Prix et le prix du jeune talent parrainé par le groupe Crédit Agricole. Alors Lorclin a dû rejoindre son Alsace natale, elle sera représentée par son éditeur, la Revue Banque, d'un côté Pierre Coustol, qui est le secrétaire général, et Elisabeth Coulon, qui est la rédactrice en chef de la Revue Banque. Mesdames, messieurs, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir pris sur votre temps, que je sais très précieux, pour nous rencontrer. À tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par me tourner vers Olivier Pastret, qui représente le duo gagnant et lauréat, Jean-Marc Sylvestre étant de son côté retenu par ses activités journalistiques. Je vais commencer bien sûr par vous adresser toutes nos félicitations. Vous voilà entré dans la lignée prestigieuse des lauréats du prix Turgot, aux côtés de Lévi Lang en 2006, aux côtés de Patrick Artus en 2005. J'imagine que c'est une situation qui est assez agréable, mon cher Olivier, monsieur le professeur.
Extrêmement agréable, et extrêmement agréable que ce soit le prix Turgot, parce que, encore une fois, Turgot a été un des grands économistes français, critiqué parce qu'il était considéré comme libéral, mais si on regarde un peu dans le détail, il était moins bêtement libéral que certains de nos contemporains. Et même s'il a défendu le libre-échange, il a aussi, et c'est directement relié aux deux livres, celui de Lorclin et le nôtre, il a aussi stigmatisé l'excès d'endettement. Et donc de ce point de vue-là, on peut dire que Turgot était un anti-Greenspan, ce qui est un hommage qui lui est rendu, en tout cas dans ma bouche.
D'accord. Bien sûr, nous avons noté que Hervé Novelli, le ministre, avait tenu à vous féliciter personnellement donc en se rendant au Sénat pour cet événement. Il a insisté dans son intervention sur les qualités pédagogiques de votre ouvrage, écrit donc à quatre mains, mais aussi sur l'intérêt que représente cette mise en perspective, cette confrontation de deux pensées économiques, de deux sensibilités que vous représentez et que vous avez donc réussi à resituer dans ce travail à deux. Alors, c'est plus difficile d'écrire à deux ou parce que c'est un exercice que vous avez multiplié.
Ça dépend beaucoup du second. et en l'occurrence, non, on n'a eu absolument aucun problème d'écriture. Ce qui est intéressant, c'est que Jean-Marc Sylvestre, qui est considéré comme un ultra-libéral, moi qui suis considéré comme un ultra-colbertiste, on s'est très vite mis d'accord, un, sur la nécessité absolue. Je rappelle que le livre est sorti en mars-avril 2008, la nécessité absolue, donc il a été quand même pas écrit en deux week-ends. On a commencé à travailler là-dessus au début décembre de l'année précédente. L'absolue nécessité d'expliquer la crise, et là on s'est retrouvé en un quart de seconde, et aussi la nécessité de faire des propositions. Et ce qu'il y a de très intéressant, alors au-delà de nos deux individualités, c'est que deux personnes de tendances économiques et politiques assez radicalement différentes se sont mis très vite d'accord sur une série de propositions qu'on est en train de retrouver ailleurs dans le G20 qui va se réunir au début avril. Ils nous ont écoutés. Non, je plaisante. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la crise n'est pas politique. Alors, on peut avoir des bagarres politiques sur plein de sujets, il y en a, et c'est très bien. Là, c'est pas du tout un débat droite-gauche, ni en France, ni aux États-Unis, ni en Angleterre, ni en Allemagne, ni au Japon, ni en Chine. C'est un débat entre comment en sortir, avec, il faut le reconnaître, des voies de sortie qui peuvent être très différentes selon les sensibilités. Il y a une voie libérale, il y a une voie qui l'est un peu moins. Il faut, à mon avis, écouter les deux pour trouver un juste équilibre.
Et c'est aussi un rapprochement entre économiste et journaliste. Mais enfin, vous, Olivier Pastré, vous êtes les deux, donc vous étiez déjà rapproché
tout seul.
Oui, mais
lui aussi, non. Oui, mais c'est ça, la frontière entre les métiers, elle est... Il y a des bons journalistes, des mauvais journalistes, des bons économistes, des mauvais économistes. Je fais l'hypothèse qu'on est, lui, bon journaliste économique, moi, bon économiste, journaliste. tout ça n'est pas le sujet. Le vrai sujet... et vous l'avez évoqué, c'est la pédagogie, c'est-à-dire expliquer aux Français, et l'expression la plus horrible que je connais, c'est la France d'en bas, mais c'est une expression malheureusement aujourd'hui consacrée.
On va dire au grand public.
Au grand public, et alors, grand public, à ce moment-là, c'est le grand public au sens quantitatif et au sens qualitatif, parce que malheureusement, les grands de ce monde n'ont pour certains d'entre eux, toujours pas compris quelle était la nature de la crise. Et là aussi, il faut faire de la pédagogie.
Alors, un mot, justement, avant de passer à l'ouvrage de Laure Klein, sur l'actualité. Pour le coup, on voit que cette crise gigantesque n'en finit pas de finir. On voit des développements récents qui, commencent à inquiéter énormément. Quel est votre sentiment pour votre point de vue après donc un an après avoir écrit donc ce livre, mais qui est ressorti, j'insiste, sous forme de poche et que vous avez actualisé
Et qui est beaucoup moins cher maintenant.
Et voilà,
je plaisante. Oui. Juste un chiffre. La Chine a annoncé il y a quelques jours qu'elle allait injecter 1 000 milliards de dollars dans son économie. Alors c'est pas totalement vrai. On peut contester les chiffres. Est-ce que c'est 1 800, 600 Peu importe. C'est un effort budgétaire sans aucune commune mesure avec ce qui a, je crois, jamais été fait dans l'histoire. Et deux jours après, la bourse plonge de 4%. Ça prouve qu'il manque une chose, c'est la confiance. Et que la seule question aujourd'hui et pour les mois qui viennent, c'est comment faire en sorte qu'on restaure la confiance. Restaurer la confiance, ça veut dire pour les consommateurs de consommer, ce qu'ils font moins qu'avant, et pour les industriels d'investir, ce qu'ils ne font plus du tout. Et donc, il y a de quoi être extrêmement inquiet, et en même temps, il ne faut pas sombrer dans le pessimisme, parce que j'ai eu l'occasion de dire à l'occasion de la remise du prix que cette crise était salutaire. Je le pense très profondément. Elle a permis de remettre à plat des dossiers qui n'avançaient pas, que ce soit la régulation financière mondiale, que ce soit le statut des paradis fiscaux, que ce soit les normes comptables. Là, je rentre dans des détails techniques, mais qu'on peut expliquer assez simplement. Je pense qu'on est en train de réformer les règles du jeu. Et de ce point de vue-là, c'est une bonne chose et il faut le faire. Et le G20... Heureusement ou malheureusement, le G20 qui va se tenir en avril à Londres est un moment essentiel. C'est vrai que si la communauté financière au sens large ne sort pas de cette réunion avec la conviction qu'il y a un ou des pilotes dans l'avion, là on risque d'avoir une situation macroéconomique très inquiétante, encore plus inquiétante qu'aujourd'hui.
Extrêmement difficile. Alors on sait, merci Olivier Pastré, on sait que donc cette crise a commencé... En tout cas, au moins de façon apparente, par les subprimes, donc ces fameux crédits, non pas pourris, mais enfin, en tout cas distribués à des emprunteurs incapables par définition de faire face à leurs engagements. Et donc, c'est précisément le titre de l'ouvrage de Laure Klein, La crise des subprimes, qui est donc paru chez Banque Édition. Alors, Pierre Coustol, je me tourne d'abord vers vous pour vous entendre dire, je suppose, que vous êtes très satisfait de ce prix qui vient d'être décerné. Alors, je rappelle que c'est le prix du jeune talent qui est donc doté par le Crédit Agricole d'une somme rondelette de 1 500 euros, que je pense que l'étudiante qu'est Laure Klein a dû apprécier.
Bien, oui, d'abord, effectivement, Laure Klein, vous prie de bien vouloir l'excuser de ne pas pouvoir être ici. Donc, nous la représentons, Elisabeth Coulon et moi. Un grand merci, évidemment, au prix Turgot, au jury du prix Turgot, à l'ensemble de ses membres. La mention d'honneur qui a été attribuée à Laure Klein et le prix du jeune talent décerné par un tel prix, dont on connaît l'exigence, ça marque pour une jeune femme qui a 23 ans une reconnaissance magnifique. Donc, je crois que pour elle, ça a été effectivement quelque chose évidemment d'exceptionnel. Pour l'éditeur qui la publie, ça l'est aussi, parce que effectivement le choix que nous avons fait de la publier présente toujours un certain risque. C'est le rôle de l'éditeur d'assumer ces risques, et le fait que le jury du prix Turgot reconnaisse la valeur de cet ouvrage pour nous vient conforter le premier avis que nous avions fait.
D'accord. Alors je me tourne maintenant vers Elisabeth Coulon, qui elle est rédactrice en chef de la revue Banque, et qui donc connaissait bien, enfin mieux que quiconque, Laure Klein, puisque vous l'avez interviewée, vous l'avez rencontrée. Alors, donnez-nous quelques éléments de cette personnalité. D'elle d'abord, et ensuite de son ouvrage.
Laure Klein, Pierre vient d'en parler, c'est effectivement très jeune. C'est une étudiante de 23 ans et qui a travaillé dans le cursus de ses études sur cette question de la crise américaine, de la crise des subprimes. Elle en a fait un ouvrage qui est... que nous, on a trouvé effectivement assez remarquable dans sa façon très claire et très pédagogique d'arriver à décortiquer tous les effets d'enchaînement de cette crise. C'est-à-dire de montrer comment cette crise est partie d'un problème relativement limité, si on peut dire, qui est un problème sur le marché immobilier américain, pour aboutir à une crise absolument mondiale, en passant par un phénomène de contagion, puis de pandémie, qui lui a donné une ampleur incroyable. Alors, dans son ouvrage, elle montre très clairement que c'est une crise des excès, dans un sens d'abord, puis dans l'autre. D'abord des excès de trop de risques, trop d'argent, trop de dettes, trop de leviers, de l'ensemble de ces crédits qui ont été accordés sans vraiment faire attention aux risques qu'ils représentaient, qui ont ensuite été titrisés de toutes les manières possibles. Et puis, il y a eu l'effet boomerang, c'est-à-dire qu'arrive un moment où ces excès ne peuvent plus être absorbés. C'est ce qu'elle dit dans une interview qu'on va publier prochainement dans Revue Banque. Et à ce moment-là, au boom succède le bust, c'est-à-dire l'excès inverse. Donc on est passé d'un excès de confiance à un excès de méfiance, une méfiance disproportionnée qui aboutit effectivement à un marché interbancaire complètement asséché. Et Laure Klein prend soin effectivement d'être très pédagogique, et elle met en avant deux causes essentielles qui pour elle expliquent tous ces enchaînements. C'est l'asymétrie d'information, je ne vais pas entrer trop dans la technique, et puis l'aléa moral qui est peut-être une notion un peu moins parlante, mais qui veut dire en gros que lorsque l'initiateur d'un crédit n'en supporte pas les conséquences ou est susceptible de ne pas en supporter les conséquences, il est incité finalement à prendre plus de risques qu'il ne devrait. Et donc elle montre comment, dans cette chaîne, traditionnellement, on a un établissement de crédit puis un emprunteur, donc deux interlocuteurs. Ces deux phénomènes d'asymétrie d'aléa existent, mais se limitent à deux personnes. Là, dans l'enchaînement dû à des crédits titrisés, retitrisés, on a eu une multiplication d'intermédiaires qui ont fait que ces deux éléments ont pris une importance, là aussi, considérable.
D'accord, écoutez, je vois que vous avez bien décrit ce qui est... On laissera à nos auditeurs le bonheur de découvrir l'ensemble, le détail de cet ouvrage. Je ne sais pas si Olivier voulait peut-être faire une réaction par rapport au programme. Alors on dit que c'est le point de départ. Est-ce que c'est vraiment d'ailleurs le point de départ?
Oui, clairement. Je reviens sur aléa moral. Aléa moral, ça se traduit très simplement par épée de Damoclès. C'est-à-dire que si les banquiers n'ont pas de risque de défaut, ils font n'importe quoi. Et ce qui est vrai pour les banquiers est vrai pour tous les métiers. Moi, ce que je trouve remarquable dans ce livre, et ça répond directement à votre question, en tout cas sur un des deux points, c'est que ça rentre un peu dans la technique. Alors, ce n'est pas à hurler de rire comme livre, c'est pas gala. Mais il y a un moment où il faut quand même parler de technique. C'est-à-dire que si on veut comprendre la crise des subprimes, qui est à l'origine de toutes les autres crises, et Elisabeth Coulon l'a dit très clairement, il faut rentrer un peu dans la technique pour savoir ce qu'il en est. Parce que si on n'arrive pas à savoir ce qu'il y a dans le bilan des banques de manière un peu précise, on n'y arrivera pas. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que revenir sur l'œil du cyclone, la crise des subprimes, qu'on a oublié aujourd'hui, puisque le marché des subprimes est un marché qui ne fait que 1300 milliards de dollars. C'est beaucoup, mais c'est rien à l'échelle de la planète financière. Revenir là-dessus, c'est une bonne chose. Et la deuxième chose que je voudrais saluer, et on regarde la revue Banque et du prix Turgot, c'est la nécessité de jeunes économistes. Je l'ai été, je le suis un peu moins. Je trouve que c'est absolument essentiel. Il faut bien voir, et la revue Banque en a été le témoin vivant, qu'on sort d'une période de pensée unique. Il n'y avait qu'une façon d'envisager la finance. C'était libéral et éventuellement ultralibéral. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce modèle a ses limites, qu'il faut le réformer, qu'il faut en garder les bons côtés, essayer d'éviter d'en avoir les mauvais, et qu'à partir de ce moment-là, on a besoin d'idées nouvelles. Il faut mettre un peu les pieds dans le plat.
Tout à fait.
Et de ce point de vue-là, le fait d'encourager les jeunes auteurs à publier, à mon avis, va dans le bon sens.
Très bien. Alors, je crois que là, la transition est toute faite et je me tourne à nouveau vers donc Pierre Coustol. Donc, vous, en tant qu'éditeur, manifestement, vous avez en ligne de mire ces jeunes talents. Mais quels sont vos périmètres plus précis? Quels sont vos centres prioritaires d'action en tant qu'éditeur?
On peut peut-être commencer par situer peut-être l'activité de Revue Banque Édition, qui appartient en fait au groupe Revue Banque. Revue Banque a plusieurs activités, donc évidemment la revue Banque qui décrypte tous les mois l'actualité qui s'intéresse qui intéresse la profession bancaire et financière. Groupe Revue Banque a trois autres activités, une librairie, revuebanquelibrairie.com, qui propose tous les ouvrages effectivement qui là aussi intéressent la profession, mais tous éditeurs confondus.
Vous savez, les deux banquiers que nous sommes connaissons parfaitement la Revue Banque et on sait quelle est la grande qualité. Il n'y a pas un banquier digne de ce nom qui ne lit pas la Revue Banque. N'est-ce pas, Olivier?
Absolument. Et la Revue d'économie financière.
Nous voilà rassurés si nous l'étions.
Ce n'est pas tous les mois. C'est pas tous les mois.
Non, tous les trimestres.
Tous les trimestres, d'accord. Pardon.
Alors, au-delà de ça, on organise un certain nombre de séminaires et puis on a donc ce département édition. Alors, le rôle d'un éditeur comme Revue Banque, c'est bien sûr d'être aux avant-postes de tous les phénomènes de société. Alors, a priori, quand il concerne effectivement une dimension économique, nous sommes très directement concernés. Donc, il s'agit effectivement d'aider à comprendre les phénomènes, de remonter aux sources et avec toute la rigueur qu'on doit avoir quand on s'adresse à des professionnels ou à des universitaires. Donc, de ce point de vue-là, on est, je crois, tout à fait dans notre rôle en publiant un ouvrage comme celui de Laure Klein. Il est vrai qu'une maison d'édition, pour construire un catalogue équilibré, il doit avoir différents types d'ouvrages. Alors, on a des ouvrages de référence. Je pense, par exemple, au dictionnaire bancaire, économique et financier de Jean-Michel Sicile, qui est un dictionnaire français-anglais. Donc, ce sont des ouvrages lourds. On a un certain nombre d'ouvrages techniques, juridiques, réglementaires, qui intéressent évidemment la profession. Et puis, on a également des ouvrages qui sont destinés à un public, certes averti, mais plus large. Donc, le public des professionnels, le public des étudiants, avec des collections comme L'Essentiel. On sort prochainement un ouvrage sur la finance islamique de Dafer Saïdan.
Oui, c'est un très grand sujet, la finance islamique.
Et on sortira un autre ouvrage sur, là encore, la crise financière en 40 concepts clés de Madame Kariotis. Donc tout ça, un ouvrage destiné aux étudiants. Donc on a effectivement vocation à avoir un éventail assez large, hein, des ouvrages destinés aux spécialistes d'un côté jusqu'aux ouvrages à l'autre extrémité, destiné à un public beaucoup plus large.
Bien, écoutez, je vais unir dans les mêmes félicitations à l'éditeur, les éditeurs, parce qu'il y a l'éditeur à la Revue Banque, mais il y a aussi l'éditeur Perrin, qui donc a fait aussi un double tir, puisqu'il est à la fois l'éditeur du grand lauréat, donc Olivier Pastret et de Jean-Marc Sylvestre, mais aussi de Nicolas Bavrez, qui a été une des mentions d'honneur donc du prix de la 22e édition.
Remarquable livre.
Remarquable livre. Et donc, bien sûr, vous transmettrez, madame, monsieur, donc, nos félicitations à Laure Klein. Vous lui direz que nous serons très, très heureux de l'accueillir sur cette antenne lorsqu'elle pourra revenir sur Paris. Je vous rappelle que l'un de ses mérites, c'est qu'elle est actuellement, c'est la raison pour laquelle elle n'a pas pu assister à cette interview, participer à cette interview, c'est qu'elle est en plein examen et que donc cet auteur est encore une jeune étudiante qui achève ses études, mais qui est encore dans les examens. Et donc, bravo.
Plein de promesses, oui.
Plein de promesses. Bravo. Merci à vous trois pour cet entretien. Et puis, rendez-vous pour vos prochaines parutions et puis pour la 23e édition du Prix Turgot, bien entendu. Merci à vous tous.
Merci.
Merci. Voilà.